France Culture. Dominique Moisy, bonjour.
Bonjour.
Avoigny, épisode 3, la géopolitique des émotions. En fait, le titre exact de votre ouvrage, c'est la géopolitique de l'émotion, même si tout le monde se trompe, hein, j'ai vérifié. Donc la première parution de ce livre date de 2008, il a été assez vite édité en poche en 2011, puis réédité en 2015. C'est un livre qui a remporté un très grand succès, il a été traduit en 25 langues, je crois, à cette date. Et c'est un livre dans lequel, à côté des rapports de force, des intérêts économiques, des stratégies militaires, qui sont souvent la base des relations internationales, vous introduisez un facteur décisif, mais longtemps négligé, à savoir les émotions collectives. Vous avez terminé ce deuxième épisode hier, en disant que votre livre, La géopolitique de l'émotion, était né d'un double rejet. Rejet d'une part d'un livre paru en 1992, je crois, de Francis Fukuyama, intitulé La fin de l'histoire. Et de l'autre côté, le livre de Samuel Huntington, qui lui, je crois, a été édité en 1996, Le choc des civilisations. Alors, pour faire un tout petit peu de pédagogie, peut-être faut-il commencer par dire qu'est-ce que c'était ces deux livres, quelles étaient les thèses de ces deux auteurs et pourquoi les rejetiez-vous avant que nous parlions de votre ouvrage?
Alors, Francis Fukuyama écrit après la chute du mur de Berlin et l'effondrement de l'URSS. Et pour lui, la guerre froide a donné un vainqueur, le monde occidental. Nous assistons au triomphe de la liberté, au triomphe de la démocratie libérale classique. Et il choisit ce titre un peu provocateur, « La fin de l'histoire ». Une vision, hélas, par trop optimiste. Le conflit de civilisation de Samuel Huntington, c'est l'inverse. Ça consiste à dire que l'histoire passe par des cycles, et après la guerre des nations, à laquelle succède la guerre des idéologies, précédemment il y avait la guerre des religions, on arrive dans un conflit de civilisation. Le conflit Est-Ouest, la guerre froide, est remplacé par un conflit entre des mondes dits, définis en termes civilisationnels. Donc il y a la civilisation islamique qui va entrer en guerre avec le monde occidental. Et il y a dans le schéma de Samuel Huntington une insistance absolue sur la culture et une négligence totale de la culture politique. Pour lui, en Asie, on est d'abord asiatique. Il ne voit pas qu'il y a ce que j'appellerai plus tard un Occident asiatique qui se définit par son modèle politique, le choix de la démocratie. Et donc, quand je réfléchis à ce qui va devenir la géopolitique de l'émotion, j'essaye de trouver une voie médiane entre l'optimisme qui me paraît excessif de Fukuyama et le pessimisme qui me paraît exagéré de Huntington. L'idée qui est à la base de ma réflexion, c'est qu'on peut en réalité regarder les entités collectives que sont les États-nations comme les individus, leur prêter des émotions. Et intégrer les émotions dans la géopolitique, c'est mal vu. D'abord, ça fait trop penser aux messes barbares, nazies, à Nuremberg, qui sont le triomphe des émotions. Quand on entend Wagner, on entend presque Woody Allen dire « Quand j'entends Wagner, je veux envahir la Pologne ». Et puis, il y a cette idée que si on se laisse aller à intégrer les émotions, on va devenir infiniment trop subjectif. Mais de quoi parlez-vous?
Et c'est pas vrai?
C'est vrai. Mais ce que j'essaye de dire dans ma démarche, c'est qu'en réalité, on ne peut pas comprendre le monde si on n'intègre pas les émotions du monde. Mon point de départ, c'est une réflexion sur le conflit du Moyen-Orient. C'est l'expérience qui est la mienne dans les années 80, 90, quand je me rends en Israël, mes voyages sont organisés, toujours avec le même rythme. À Tel Aviv, je rencontre les Israéliens à l'ambassade de France. À Jérusalem, je rencontre les Palestiniens au consulat général de France. Et je vois bien que ce conflit, qui constitue pour moi une matrice des relations internationales, est bien sûr lié au territoire, lié aux questions de souveraineté, à l'eau qui manque dans cette région, mais qu'en réalité, il faut intégrer les émotions pour comprendre ce dont il s'agit. Et je vois une culture israélienne trop dominée par le ressentiment et une culture dominée par un complexe de supériorité. Et du côté palestinien, par contre, une culture dominée par l'humiliation et un complexe d'infériorité. Comment réconcilier des peuples qui ont des émotions à ce point différentes? Et je vais écrire d'abord une chronique dans la presse qui va s'appeler « The Clash of Emotions », le conflit des émotions. Un de mes anciens professeurs, collègue devenu ami à Harvard, Stanley Hoffman, va dire « Mais tu as touché quelque chose de très important, tu dois en faire un article dans la revue Foreign Affairs, ce que je fais. » L'article va être un des plus lus après Fukuyama et Huntington.
Qui sont déjà des classiques des relations internationales.
Qui sont des classiques. Et je parle beaucoup de cet article dans la presse, la radio, la télévision américaine. Et un des auditeurs est un des dirigeants du groupe Random House. Grande maison d'édition anglo-saxonne. Et il me commande un livre. Et ce livre va devenir La géopolitique de l'émotion.
Vous voulez dire qu'il est traduit, en fait, ce livre?
Il est traduit. En fait. Il est écrit en anglais et traduit en français.
Alors, que dit ce livre, Dominique Moisy, outre le point de départ qui a été le vôtre? Il dit déjà que l'émotion n'est pas l'ennemi de la raison, mais que l'émotion est la condition de la raison.
Alors, ce que j'essaye de dire, c'est qu'il en va des émotions comme du cholestérol. Il y a du bon cholestérol et du mauvais cholestérol. Il y a des émotions positives, l'espoir en est une des plus nobles, et des émotions négatives. La peur et l'humiliation en font partie. Et j'essaye de privilégier ces trois émotions parce qu'elles me paraissent traduire un rapport à un mot clé pour les peuples, celui de confiance. L'espoir, c'est la confiance. C'est l'idée que aujourd'hui n'est pas mal, mais que demain sera mieux. La peur et l'humiliation, c'est l'absence de confiance. Dans la culture de peur, aujourd'hui est pire qu'hier, mais demain sera pire encore qu'aujourd'hui. Et dans l'humiliation, il y a un passé glorifié, et il n'y a pas d'avenir. Et donc, il me semble essentiel pour moi de privilégier ces émotions et de dresser, c'est l'originalité de mon livre, une cartographie des émotions du monde.
Donc il y a trois grandes aires du monde que vous identifiez. L'Occident, disons l'Europe et les États-Unis, le monde arabo-musulman et l'Asie à l'époque. On peut développer un peu sur chacun ?
Dans ma volonté de bâtir une cartographie des émotions du monde, je cherche l'émotion dominante, comme on peut trouver dans un tableau une couleur dominante. Et je trouve plus d'espoir en Asie, derrière la croissance économique de la Chine et de l'Inde, plus de peur des deux côtés de l'Atlantique, en Europe et aux États-Unis et plus d'humiliation dans le monde arabo-musulman. Et le livre sort en 2008, dans sa première version, juste avant, au moment même de l'élection de Barack Obama, triomphe de l'espoir.
Mais pour une partie de la population.
Pour une partie de la population, juste avant les printemps arabes, qui se terminent mal et qui vont renforcer l'humiliation dans le monde arabo-musulman, alors que la croissance économique continue de se poursuivre en Chine et en Inde.
Malgré la crise économique
mondiale.
Malgré
la crise économique qui commence. Et donc, pourquoi ce livre a-t-il eu un tel retentissement? Bon, je crois qu'il y a un peu de chance. Mais l'histoire m'a plutôt donné raison. C'est-à-dire que l'Asie a plutôt continué à progresser, le monde occidental a plutôt continué à être dominé par la peur, et le monde arabo-musulman par l'humiliation. Et cette clé de lecture est apparue utile pour les lecteurs. Et parmi les lecteurs, il y a eu beaucoup d'étudiants, puisque le livre est devenu une lecture obligatoire dans beaucoup d'universités dans le monde.
Alors même, Dominique Moisy, que vous le disiez, le livre a rencontré un certain nombre de détracteurs à sa première parution en 2008, parce que d'abord vous introduisiez les émotions dans un domaine où elles étaient absentes, négligées, et donc ça n'a pas toujours été apprécié, mais aussi parce que certains y ont vu un manque de rigueur scientifique. Ils se sont dit, mais est-ce que c'est pas la politique du doigt mouillé, est-ce que c'est pas vos propres émotions à vous qui vous guident, est-ce que c'est pas très subjectif, sur quoi repose cette géopolitique de l'émotion? Alors peut-être pouvez-vous là répondre à un certain nombre de ces critiques, puisque le livre, de fait, a rencontré ensuite un immense succès.
Oui, mais je m'attendais à cela. C'était inévitable. Et puis, j'accepte ces critiques. Je mets mes émotions sur le devant de la scène. Mais je crois que mon idée était, je le répète, que pour transcender les émotions, il faut les intégrer, il faut les comprendre.
Ça veut dire que cette lecture en termes d'émotions ne vient pas se substituer à d'autres grilles de lecture, elle vient compléter.
Tout à fait. Il est évident que le monde reste dominé par les intérêts, que si on ignore le cynisme, la réelle politique, on ne comprend rien. Mais si l'on se concentre exclusivement sur la réelle politique et le cynisme, on passe peut-être aussi à côté d'une partie essentielle. C'est un débat que j'ai eu depuis toujours avec Hubert Védrine.
Partisan de la réelle politique.
Partisan de la réelle politique. Hubert Védrine trouvait mon approche, trouve toujours mon approche naïve. Pour aller à l'essentiel. Et ma réponse était de lui dire, non, dans un monde trop cynique, il devient réaliste d'être moral. Bon, est-ce que ça correspond à la réalité? Je ne suis pas sûr. Le monde n'a pas donné nécessairement raison à ma vision du monde au cours des 20 dernières années.
Mais parce que ça veut dire que vous défendez, disons, une vision morale ou éthique de la géopolitique?
Je crois que si on oublie toute éthique, on va à des catastrophes. Je crois que la rationalité suppose la prise en compte du regard de l'autre. L'efficacité suppose un minimum d'empathie dans la compréhension de l'autre. Ce qui me frappe aujourd'hui dans le monde qui est le nôtre depuis l'arrivée au pouvoir de Donald Trump II, c'est une absence de rationalité. Chacun agit contre ses intérêts profonds. Quand on voit la montée en puissance de la Chine, l'Amérique a besoin d'alliés. Quand on voit l'isolement diplomatique dans lequel Israël s'est enfermé avec la guerre de Gaza, il est clair que l'État juif a besoin d'alliés. Et on peut penser qu'à terme, l'histoire considérera que ça a été une folie pour la Russie de se lancer dans cette guerre contre l'Ukraine. Elle est infiniment plus faible, en réalité, qu'elle ne l'était avant le 24 février 2022. Et je pense que un minimum d'éthique conduit à un maximum de rationalité.
Est-ce que parfois, Dominique Moisy, la géopolitique des émotions contredit la géopolitique des intérêts rationnels?
Oui, ça peut être le cas.
Par exemple?
Bah, là encore, je suis obsédé en ce moment par l'évolution de l'Amérique. L'Amérique du plan Marshall en 1947 fait preuve d'une générosité éclairée qui va lui réussir. Elle va dire « je dois sauver l'Europe des partis communistes, comme je dois sauver les pays européens de l'armée soviétique ». Et ça va réussir. Aujourd'hui, l'Amérique de Trump dit « qu'est-ce que c'est que ses alliés ? Je veux détruire l'Union européenne et je vais tout faire pour la détruire. Elle est dans un effacement civilisationnel. » Et là, l'émotion populiste de Donald Trump, pour moi, c'est une émotion négative qui est parfaitement irrationnelle et qui va à l'encontre des intérêts profonds de l'Amérique.
Est-ce que ça, ce n'est pas une lecture proprement subjective ?
J'essaye de répondre honnêtement à votre question. Le monde occidental aujourd'hui représente à peu près 10% de l'humanité. S'il se divise, s'il éclate, il est encore plus faible. Pour avoir quelque chance d'exister face à l'Asie, en particulier la Chine, nous devons être ensemble. Et ensemble, dans la croyance en nos valeurs, en notre modèle, mais le faire d'une manière complètement opposée à la pratique qui a été la nôtre au cours des dernières années. C'est-à-dire, ce qui m'obsède en réalité, c'est ce mélange d'arrogance à l'égard de l'autre et de complaisance à l'égard de soi qui a dominé le comportement occidental au cours des dernières décennies. Alors que dans mon esprit, il fallait faire preuve de modestie à l'égard de l'autre et d'ambition pour soi-même. Et tout cela passe par l'écoute, l'empathie. En fait, les mots-clés, et je crois que les émotions sont essentielles pour en percevoir l'importance, ce sont les mots de respect et d'écoute de l'autre. Se mettre à la place de l'autre et comprendre qu'il est essentiel de se mettre à la place de l'autre, ça signifie étudier, intégrer les émotions de l'autre.
Est-ce que ça, Dominique Moisy, ça n'est pas le propre plutôt de la diplomatie que du spécialiste des relations internationales? Est-ce que vous ne faites pas preuve, vous? D'ailleurs, vous l'avez un peu dit quand vous avez terminé l'épisode précédent sur la façon dont vous étiez allé conseiller aussi l'Allemagne à un moment, moment de la réconciliation franco-allemande. Est-ce que là, vous... Alors, ça n'est pas outrepasser vos fonctions, les fonctions sont définies par les êtres qui les font, mais en tous les cas, vous sortez de ce qu'on appelle classiquement la géopolitique, non ?
Non, je ne crois pas. Je reviens sur un point que nous avons abordé. Dans mon approche de la discipline des relations internationales, je n'ai jamais eu pour ambition de faire progresser la science. Mon ambition était d'éveiller les consciences. En fait, je pense qu'on revient à un thème que nous avons abordé tout au début de cette série d'émissions, l'impact de mon héritage de fils de survivants d'Auschwitz. Un des fils de Simone Veil, nous sommes assez amis, me confiait que sa mère ne se souciait pas tellement de ses études. Elle se souciait de ses valeurs. Elle entendait faire en sorte que sa famille, ses enfants, aient parfaitement intégré l'éthique, les valeurs fondamentales. Et voilà, c'est ça. Moi, je crois que le monde est devenu trop grave pour qu'on s'arrête à des débats entre spécialistes. Si on peut, à la marge, influer sur le cours des événements, parce qu'on a fait passer des idées fortes à ces étudiants, parce qu'on a vu dans leur regard que ils allaient désormais regarder la géopolitique de manière différente, que chaque jour, en regardant la télévision, en lisant le journal, ils allaient avoir des clés de lecture d'une autre nature qui allait transformer leur compréhension. Si par ces écrits, qu'il s'agisse de vos chroniques régulières dans la presse ou de vos livres, vous pouvez changer le regard de vos lecteurs sur la réalité du monde, ça me paraît infiniment plus important que les débats entre spécialistes sur la validité ou non de telle ou telle approche théorique des relations internationales. Je crois qu'il ne faut pas avoir peur de se confronter à l'actualité. Oui, ça n'est pas scientifique. Mais c'est beaucoup plus important, c'est fondamental dans les débats qui entourent les phénomènes internationaux.
En Occident, pour prendre l'Europe et les États-Unis, quand vous dites la peur, peut-être faut-il détailler un peu, c'est la peur du déclin, c'était la peur du terrorisme, c'est la peur de la perte de la puissance, c'est la peur de l'autre, la peur du futur, c'est tout ça?
C'est tout ça. En fait, ce sont des peurs qui se démultiplient, s'enchevêtrent les unes dans les autres. Je crois qu'aux États-Unis, il y a eu la peur du déclin historique. Est-ce que nous sommes toujours l'hyperpuissance que décrivait Hubert Védrine à ce moment-là, dans les années 90? Mais il y a aussi la peur de l'autre qui est très présente en Europe, avec bien entendu la peur du terrorisme et notre incapacité à traiter de manière satisfaisante les phénomènes migratoires qui jouent un rôle massif dans la montée des populismes et en Europe et aux États-Unis.
Et donc comprendre par quel mécanisme émotionnel les peuples et leurs dirigeants avancent, c'est comprendre aussi quelles sont les orientations politiques de ces mêmes pays. Par exemple, cette peur peut conduire à un repli sécuritaire, peut conduire à une tentation populiste, peut conduire à une difficulté d'ailleurs à se projeter dans un projet collectif positif, ce fameux espoir que vous voyez et que vous voyez encore sûrement en Asie.
Oui, en fait, ce que j'essaye de dire et ma pensée évolue avec l'évolution des événements.
Avec l'actualité.
Avec l'actualité. C'est que rien ne serait plus dangereux que de ne pas percevoir le caractère dramatique de ce qui se passe. Il faut comprendre. On ne peut pas jouer les autruches. Refuser de voir, c'est coupable. Considérer qu'il n'y a rien à faire, que c'est inévitable, c'est plus coupable encore. Il y a cette forme de résignation passive, fondée sur l'idée que oui, c'est regrettable, mais qu'il existe un danger plus grave encore. Quand on entend le débat actuel et que l'on voit une partie importante du patronat dire « mais l'extrême gauche est infiniment plus dangereuse que l'extrême droite, l'extrême droite est en train de s'assagir, regardez l'évolution de l'Italie derrière Giorgia Meloni », la réponse qui devrait venir serait de dire « oui, mais l'extrême gauche n'a aucune chance d'arriver au pouvoir en France, alors que l'extrême droite a beaucoup de chance, beaucoup de risques, me semble-t-il, pour moi. » Donc, travailler sur les émotions, c'est s'engager soi-même. C'est, un, être lucide, deux, ne pas être résigné. Je crois que ce qui est le plus grave pour moi, c'est d'accepter comme inéluctable et donc considérer comme presque normal une évolution qui est effectivement en train de se produire, mais que l'on doit refuser au nom de l'éthique et des valeurs. Et dans mon cas, bien évidemment, au nom de mon histoire.
Le dernier chapitre de la géopolitique de l'émotion, Dominique Moisy, est intitulé « Le monde en 2025 ». Nous enregistrons ces émissions en 2025. À l'époque, vous échafaudiez deux scénarios. Un scénario dans lequel le monde serait dominé par la peur, et un autre scénario où le monde aurait été gagné par l'espoir. On en est où ?
Le verdict est clair. L'histoire a tranché. Les émotions négatives l'ont emporté sur les émotions positives. On est beaucoup plus proche de la dystopie terrifiante, le pire des mondes, en 2025 que de la dystopie irénique, le meilleur des mondes en 2025. C'est d'ailleurs pour cette raison que en 2024, j'ai publié Le triomphe des émotions.
Et c'est ce que nous verrons dans l'épisode non pas 4, mais l'épisode 5, Le triomphe des émotions et la suite, puisque dans l'épisode suivant, Dominique Moisy, nous allons voir comment cette explication sensible et subjective des enjeux internationaux peut aussi s'appliquer au monde culturel. En l'occurrence, les séries et la musique. À demain.
À demain.
C'était À voix nue avec Dominique Moisy, prise de son Clément Vuillet, réalisation Nathalie Salle, chargée de programme À voix nue Daphné Abgral, une série de Caroline Brouet disponible sur le site de France Culture et l'application Radio France.